Good Morning Business, le grand débat.
Et nous sommes donc ce matin avec Raphaël Bloch, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Well, François Cholet, président de Montségur Finance, Belaoud Abdelhaïm qu'on ne présente plus, Mathieu Pechberti qu'on ne présente pas non plus sur ce plateau. Alors, le Shift Project, est-ce que vous y croyez à cette sombre perspective pour l'Europe 2025, il manquera 40% de gaz parce que la guerre en Ukraine ne sera pas terminée et qu'on ne trouvera pas assez de GNL parce que d'autres pays que nous le voudront. Mathieu, vous nous expliquez ce qui va se passer en 2025 ?
Non, mais l'idée de cette étude, c'est effectivement de dire que si la guerre en Ukraine continue, si on n'a toujours pas de gaz russe à horizon 2025-2026, on aura un trou d'air énorme entre ce qu'on doit consommer, enfin ce qu'on veut consommer comme gaz et ce qu'on peut approvisionner. Alors le chiffre de 40%, moi je trouve peut-être un petit peu exagéré, ça c'est les prévisions du Shift Project de Jean Covici.
Ah, c'est énorme parce que là l'économie s'effondre quand même.
Non, mais là on entre dans une ère dans laquelle de toute façon je pense que comme personne n'osera mettre le petit doigt dessus, la situation se passera différemment, si vous voulez. C'est pour ça que cet écart de 40% est totalement colossal. Ensuite, je pense que ça met quand même le doigt sur un sujet qui est non pas économique mais politique et militaire, qui est l'enjeu de cette guerre en Ukraine. Et on voit bien que de toute façon le débat quand même commence à tourner déjà depuis quelques semaines ou quelques mois sur est-ce qu'il faut la continuer.
On a vu Emmanuel Macron dans la presse ces derniers jours, Benahouda, expliquer que peut-être on pourrait réfléchir à une solution en Ukraine en partageant le pays, mais que bien sûr on n'avait rien à dire et que c'était les Ukrainiens qui décidaient. Est-ce que là clairement on est en train de se rendre compte qu'il faut à tout prix arrêter la guerre?
Vaste question, et pour l'instant, en tout état de cause...
On ne vous entend pas, Benahouda, je ne sais pas pourquoi, mais...
Bon. Le président français...
Non, on n'entend pas, Benahouda.
Toujours pas, il y a un problème au micro.
Ouais, bon, on va prendre le métro, Mathieu Pechberti.
Je suis d'à côté.
Voilà. Merci Benahouda pour cette intervention.
Un peu de bricolage.
Voilà.
Là c'est bon, on m'entend avec nos excuses de BFM Business. Donc je disais que pour l'instant le président de la République française ne recueille pas de suffrage auprès de ses collègues de l'Union européenne. De ce point de vue-là, on est encore loin de l'idée qu'il faille aller vers des négociations avec la Russie.
Même côté américain, on n'est pas du tout sur ce point-là.
De ce point de vue-là, il y a effectivement, de la part de la France, l'idée que les États-Unis font bien de ne pas pousser jusqu'à fournir des armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent atteindre le territoire russe. Mais lorsqu'on voit un certain nombre de réactions, et pour ainsi dire la majorité des réactions au sein de l'Union européenne, on en est très loin. Mais il y a bien le sentiment d'urgence extrême au sein de l'Union européenne lorsqu'on voit par exemple qu'il y a 24 heures l'État allemand a garanti auprès d'une société de négoce Trafigura, qui est l'un des plus grands négociants au monde de matières premières, un prêt de $3 milliards, même à l'échelle de la première économie de la zone euro, c'est quelque chose d'extraordinaire, pour garantir des flux de gaz au sein du réseau européen et in fine allemand. C'est dire si même l'Allemagne a effectivement une crainte majeure, si ce n'est existentielle, de ce scénario du pire qui est décrit dans ce scénario.
François Cholet ?
Non, Jean-Marc Jancovici a beaucoup de qualités, mais il y en a une, c'est qu'il calcule très bien. C'est-à-dire que je ne mets pas en doute le fait que s'il n'y a plus de gaz, l'Allemagne ne pourra pas fonctionner. Et donc, on a un énorme problème avec notre premier partenaire commercial. La vraie réponse, c'est donc de dire que, comme c'est un temps très long pour refaire des infrastructures et changer de mix énergétique, c'est pas un temps à l'année ou même à 5 ans. Donc la vraie réponse, c'est qu'on ne pourra pas se permettre de faire une guerre totale et infinie à la Russie et de ne pas s'approvisionner à la Russie si on veut garder notre économie. Et c'est bien la force et l'arme principale économique de M. Poutine. Il sait très bien qu'on ne pourra pas s'en passer. Et donc la vraie réponse, c'est que oui, on va faire tout ce qu'on peut, mais dans un temps qui ne sera pas celui... du temps géopolitique, d'une discussion avec la Russie qui va devoir rester active. Et c'est assez frappant de voir que l'Allemagne, qui est le premier, entre guillemets, à craindre pour sa propre survie industrielle, ne change pas de mix énergétique. Ils sont pas revenus sur leur décision de fermer les centrales nucléaires. Ils sont pas revenus sur leur
idée initiale. Ils ont repoussé un petit peu.
En maquis, mais le fond ne change pas. Ouais. Ça veut bien dire qu'ils sont...
Ils comptent sur le retour du gaz russe. C'est ça que ça veut dire ?
Ah, mais c'est une évidence.
Ils peuvent pas.
C'est une évidence. Et donc, ce retour-là, il arrivera quand... La réponse est simple. De toute façon, les Ukrainiens se battent avec les armes de l'OTAN. Donc, qui dirige l'OTAN dirige la capacité des Ukrainiens à maintenir cette contre-offensive. point.
Raphaël Bloch.
Non, c'est juste, effectivement, on savait dès le départ que Poutine avait une arme, c'était le gaz. On savait qu'il allait s'en servir, il le fait. Maintenant, la question est de savoir combien de temps l'Europe pourra tenir, surtout unie, parce qu'effectivement, le risque... Ouais. C'est que, et on l'a vu par exemple pendant le Covid, à la fin, les États, alors même si pour le gaz c'est plus compliqué, mais mettent en place des politiques qui les servent eux-mêmes et pas forcément tout le continent. Et dans ces cas-là, il y aurait des fractures et certains pays qui pousseraient à effectivement signer la paix avec la Russie.
Ceci étant, il y a des évolutions majeures qui n'apparaissent pas de façon flagrante aux yeux du grand public, mais le fait par exemple que l'Allemagne ait consenti à signer un contrat long terme pour 2 millions de tonnes par an de gaz de GNL avec le Qatar sur 15 ans, alors qu'il y a encore peu, c'est-à-dire quelques semaines auparavant, les Allemands refusaient mordicus de négocier des contrats long terme, sauf que le Qatar dit très bien, vous ne voulez pas de contrat long terme, nous on a signé avec le Sinopec, le chinois, sur 27 ans, ce qui nous mène jusqu'à les années 2050, c'est vous dire l'horizon d'investissement que donnent les Chinois, mais aussi les Sud-Coréens et les Japonais aux Qataris, et que ne donnent pas les Européens, ne donnaient pas en tout cas jusqu'ici les Européens aux Qataris, c'est qu'il y a même en Allemagne une évolution, une autre évolution là aussi qui passe sous le radar. Robert Habeck, qui vous imaginez un agenda très chargé, passe 5 jours en Afrique australe actuellement, en Namibie et en Afrique du Sud, notamment pour négocier un mémorandum entre RWE et la Namibie pour l'importation de dérivés d'hydrogène. C'est vous dire si cette question énergétique en Allemagne, donc la première économie de la zone euro, donc pour l'ensemble de l'Union européenne, est tout à fait fondamentale.
Et est-ce qu'en Allemagne aussi, on est sur les questions de réduction de consommation, comme si ça allait vraiment pouvoir nous aider? Est-ce que là, on a l'impression qu'on n'en est plus là, en fait?
Ah, l'Allemagne, c'est frappant. Si on nous disait pas, si on ne savait pas que l'étiquette politique de Robert Habeck, actuellement vice-chancelier ministre de l'économie en Allemagne, on se douterait pas que c'est un ministre vert. Mais effectivement, tant que...
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de...
Ah, pour l'instant, leur seul objectif, c'est d'assurer les approvisionnements. Vraiment,
c'est pas de faire de la sobriété.
Ce n'est pas en tout état de cause dans la politique publique, bien entendu, au jour le jour vis-à-vis des citoyens. Mais ça, c'est plus pour l'affichage politique davantage que le fond de leur politique.
Mathieu, ça veut dire que c'est un peu, encore une fois, chacun pour son Europe. Là, on sait qu'on va vivre des jours un peu tendus en matière de production électrique en France parce qu'on n'a pas beaucoup de réacteurs, parce qu'on consomme beaucoup, parce qu'il fait froid. On importe énormément, on est niveau record d'importation d'électricité européenne. Est-ce que on va réussir à tenir là dans les jours qui viennent en matière d'approvisionnement d'électricité, notamment allemande?
Oui, dans les jours qui viennent, ça devrait bien se passer. En tout cas, on va pas trop se mouiller. Mais quand on regarde les courbes de prévision, on va avoir des pics là, à partir de jeudi. Ça va revenir lundi. Un petit peu la semaine prochaine, on est à des pics de consommation qui sont pas énormes. En même temps, comme on a une production qui est très faible,
oui, on apporte énormément.
Ça va être, on apporte autour de 11 000 mégawatts. On va pas donner trop de chiffres, mais en général, on est plutôt vers 5, entre 5 et 8 000. C'est intéressant parce que là, on parlait beaucoup du gaz pour l'Allemagne. Eux ont un vrai problème sur le gaz. Très bien. Nous, on en a pas trop en France parce qu'on est pas très dépendant. On a un problème sur l'électricité et du coup, ça se répand dans toute l'Europe. Et donc là aussi, ça montre bien qu'on a des intérêts, en tout cas, qui sont complètement divergents sur le sujet du gaz russe, sur le sujet de l'Ukraine.
La guerre en Ukraine aide le discours politique, là, clairement, sur la question du nucléaire. Ça évite de poser la question des responsabilités, parce que si nous n'avions pas ces 20 réacteurs éteints, ça irait.
Ah oui, ça irait complètement. Le sujet de la guerre en Ukraine est complètement décorrélé de ce qui se passe en France. C'est vraiment un sujet pour les Allemands, mais en même temps, pour l'Union européenne et donc aussi pour la France, on voit bien dans tout ce qu'on vient de dire, la réalité sera quelque part au milieu. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine ne va pas durer 5 ans, elle ne va pas s'arrêter non plus dans 3 mois, mais maintenant ça fait 9 mois qu'elle dure, on se pose déjà ces questions, les politiques se posent déjà cette question de quand est-ce que ça va s'arrêter pour des raisons économiques, pour des raisons énergétiques. Dans 6 mois, où est-ce qu'on en sera? Où est-ce qu'on en sera en juin prochain quand l'hiver sera passé, quand il faudra re-remplir les stocks de gaz et qu'on n'aura plus un seul centimètre cube de gaz russe à remplir dans nos stocks?
On évoquait tout à l'heure peut-être l'éventuelle pression qui commence à se faire sur les Ukrainiens pour accepter une partition du pays, pression française, on l'a vu ce week-end, peut-être pression américaine. À l'instant, l'armée russe annonce que 2 bases aériennes en Russie ont été attaquées au drone par le régime ukrainien, ce qui montre bien que l'Ukraine n'a absolument pas envie, elle, d'arrêter la guerre, quitte à peut-être être dans l'escalade vis-à-vis de la Russie, Ben Aouda.
Oui, vous regardez les déclarations, notamment des principaux diplomates ukrainiens, ils sont davantage dans l'idée de traduire Vladimir Poutine et à dire vrai l'ensemble des structures d'État russes devant un tribunal comparable, disent-ils, à celui de Nuremberg, plutôt que d'essayer de composer avec eux. Alors, bien entendu, ce sont deux logiques différentes, celles que peuvent avoir les Européens de l'Ouest et les Ukrainiens. Mais en tout état de cause, ils ne sont pas du tout dans l'idée d'un compromis pour l'instant. Et dans leur esprit, dès le moment où ils suggéreront qu'ils sont dans une logique de compromis, ils auront perdu la guerre face à la Russie.
François, est-ce que cette situation, cette hypothèque qui pèse sur l'Europe compromet la croissance, ça veut dire des prochains trimestres par rapport au reste du monde, par rapport aux Américains par exemple?
C'est la principale menace sur la croissance, c'est l'énergie. Et là pour le coup, c'est la démonstration de Jancovici historique, c'est que l'énergie, c'est la croissance. Pour revenir à cette solidarité européenne, parce que je crois que c'est plutôt ça le sujet en vérité. Aujourd'hui, on dépend en France de l'Allemagne pour notre énergie électrique. On peut espérer que dans quelques mois, les réacteurs français ayant redémarré, l'Allemagne pourra compter sur la solidarité française, puisqu'aujourd'hui, déjà, on les approvisionne en gaz, puisque ce sont nos réserves de gaz, donc nous n'avons pas un grand besoin à ce stade, qui leur permettent de compléter leur mix énergétique. Donc, c'est important. Si on n'avait pas cette solidarité-là, on aurait pu se positionner un peu comme l'Espagne, en essayant d'avoir un discours un peu... Moi, tout seul, je bloque les prix de
oui, mais la question, c'est jusqu'à quel niveau de destruction de valeur on est solidaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné...
Oui, mais pour l'instant, on a réussi, en faisant ce bloc-là, déjà à faire converger vers nous toutes les sources de gaz à peu près dans le monde, puisqu'on a été alimenté aussi bien par l'Asie... Enfin, vous citiez tous les pays qui ont repris ce chemin pour nous alimenter en GNL. Tous ces moyens qui sont en train de se mettre en œuvre d'un point de vue industriel pour permettre une plus grande perméabilité... transférabilité de ces ressources de gaz liquéfié. Donc ça, c'est quelque chose dont on a cruellement besoin. Mais la vérité, c'est que c'est par cette solidarité aujourd'hui qu'on arrive à s'allumer le plateau. Et donc, on ne peut pas se permettre de dire on va faire seul sans les Allemands. On est aussi, nous, tenus, et je pense qu'on sera capable l'année prochaine, en tout cas, de venir rembourser un peu cette dette morale qui consiste à leur rendre un peu de l'électricité qu'ils nous ont fournie cet hiver.
Raphaël Bloch. Ouais, non, on peut quand même juste s'interroger sur le coût finalement de ce dispositif, c'est-à-dire que évidemment on a réussi et tant mieux à mettre en place via le Moyen-Orient, via d'autres pays des canaux qui nous permettent d'être alimentés, mais c'est vrai que je suis pas convaincu que l'Europe sorte grandie au moins à court terme de
c'est une certitude
cette
on perd du pouvoir économique vis-à-vis de l'étranger, et ça se voit tous les jours dans les comptes publics. Le point qui est important, c'est que ce coût-là n'est rien par rapport au coût qui serait si nous n'avions pas la ressource.
Mais là, après, il ne faut pas se leurrer, le bloc commercial européen est le plus important au monde, le plus solvable, le plus fiable en termes de paiement. Et vous regardez, par exemple, dans Vanguard, qui est un grand quotidien de Lagos aujourd'hui, ce matin, c'est la Chambre africaine d'énergie, la AEC, qui publie son rapport annuel sur l'état de l'énergie en Afrique. Et la perspective pour Nigeria, l'Algérie, l'Égypte, la Guinée équatoriale, le Cameroun et l'Angola, d'exporter du gaz et du GNL vers l'Europe dans son ensemble. Eux ne font pas la distinction entre le Portugal et la Finlande. Pour eux, c'est l'Union européenne, point. Leur paraît tout à fait fondamental et solvable. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inquiétude à concevoir du point de vue européen.
Mathieu ?
Oui, dans la même veine, les Américains non plus n'ont pas intérêt à ce que l'Europe s'effondre. Hein. On est le premier continent acheteur de produits énergétiques américains.
Notamment du GNL, de gaz de schiste.
Évidemment. Les Chinois non plus, l'Asie n'a pas non plus intérêt à ce que l'Europe s'effondre économiquement. Donc il y a quand même ce juste milieu à trouver entre la nécessité de retrouver des capacités énergétiques avec les pays extérieurs et à faire en sorte que les prix de l'énergie ne soient pas durablement extrêmement élevé. Personne n'y a vraiment intérêt.
Allez, une petite info pour faire plaisir à Raphaël Bloch, Goldman Sachs, qui voit les opportunités d'investissement dans le secteur des crypto-monnaies, qui dit que c'est il faut toujours acheter au son du canon et que effectivement c'est le moment d'investir des millions de dollars dans un secteur aujourd'hui déserté par les investisseurs. Hein, Raphaël.
Ouais, non, effectivement, c'est une info qui vient de tomber. Alors, pour être honnête avec vous, on s'y attendait un petit peu dans la mesure où Goldman Sachs n'est pas le dernier acteur à se positionner sur le secteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2018, donc juste après le fameux grand bull market, Goldman Sachs avait commencé à travailler sur un trading qui permettrait de trader des cryptos. Puis ouais. Ils ont travaillé sur une offre pour leurs clients. Et là, vu la situation de beaucoup d'exchanges, donc des plateformes d'échange de crypto-monnaies qui sont en difficulté, FTX s'est effondré, mais d'autres sont touchés, ils ont tout intérêt à se positionner sur ce secteur en se disant ça va repartir dans les mois et les années qui viennent. Et donc là, on peut facilement s'offrir une position confortable sur le marché.
François, toujours pas de crypto?
Non, toujours pas de crypto, mais je crois qu'il faut surtout une réponse, parce qu'il y a une étude qui est sortie hier qui était exactement symétrique et opposée, disant qu'il n'y avait aucun avenir pour le Bitcoin et qu'il ne fallait pas s'y intéresser avant ça.
Alors, c'est toujours tout l'un ou tout l'autre, hein. C'est compliqué d'avoir...
Non, mais alors, vous connaissez très bien ce secteur. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, ils ont régulièrement des études faites par quelques analystes, mais je veux dire qu'ils les portent de manière indépendante. Là, c'est vrai qu'on parle de l'institution, et après, ils ont des convictions en interne. Certains sont effectivement convaincus que ça va se développer, d'autres pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que là, c'est l'institution Goldman Sachs qui s'intéresse au sujet.
Donc Raphaël achète et François trouve pas.
Ça sera peut-être ça la maturité du marché, hein, quand on aura une analyse un petit peu middle.
Exactement. Non, mais c'est déjà le cas.
Les marchés, François, ils misent quand même sur une réouverture de la Chine. Là, on a eu des indicateurs forts, des...
Oui, alors les marchés ne croient pas du tout au scénario de l'absence de gaz en 2023. Sinon, on serait pas revenu à ces niveaux-là. Ouais. Donc la vraie réponse des marchés, en tout cas s'ils sont cohérents, c'est que non, il n'y aura pas de problème d'approvisionnement pour l'Europe en 2023, parce qu'encore une fois, on ne serait pas sur ces niveaux. La réouverture de la Chine, on va dire que c'est un élément de soutien au moral, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit visible dans les chiffres. Ce qui est important, c'est de voir quand même qu'on vient de passer quelques éléments clés. Il y a eu ce Black Friday, il y a eu le Cyber Monday, avec des chiffres qui sont très positif et très surprenant de la consommation. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'on va attaquer cet exercice 2023 d'un point de vue des investisseurs en se posant vraiment la question, est-ce que l'épargne accumulée des ménages, notamment aux États-Unis, est-ce que le pouvoir d'achat de la carte bleue aux États-Unis va permettre de continuer à avoir cette désépargne pendant les 6 prochains mois? Pour l'instant, il semblerait que la réponse du marché soit positive.
Alors, on disait la Chine est de retour, peut-être, en partie, mais Ben Aouda, on voit Foxconn qui annonce aujourd'hui qu'ils vont réembaucher, qu'ils vont retrouver les niveaux normaux après avoir perdu quand même 29% de la production. Sauf qu'Apple, au même moment, dit « mais moi, je ne veux plus fabriquer mes futurs nouveaux produits en Chine, je les fabriquerai ailleurs ». Donc, il va y avoir des changements assez puissants de lieux de production.
Et puis on a l'impression que toutes les demi-journées, on change d'avis actuellement sur les niveaux de redémarrage de l'économie chinoise. Dans Caixin, le média économique privé chinois ce matin, on sent qu'il y a maintenant, et ça de ce point de vue-là, ça doit certainement venir aussi des pouvoirs publics, l'idée qu'il faut absolument avoir 5% de croissance économique en 2023, sinon ça sera une calamité aussi bien pour la Chine que pour l'économie mondiale. Donc il y a les conjoncturistes qui tablent sur une croissance entre 4 et 5, ceux qui tablent entre 5 et 6, mais en tout état de cause, ce cap des 5%, et comme nous l'avons vu hier dans la lettre ouverte d'une demi-douzaine d'économistes de premier plan chinois, c'est vraiment, il faut qu'on arrive à tenir ce cap des 5% pour pouvoir resservir de moteur à l'économie mondiale.